C'est le S, c'est le sport, un mardi par mois, de 20h à 21h sur Radio Campus Paris.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans C'est le S, le rendez-vous mensuel sportif de Radio Campus Paris. 7e émission ce soir et émission plus courte que d'habitude, une trentaine de minutes, mais pas d'inquiétude. Vous serez au courant de l'essentiel de l'actualité sportive. On vous a préparé un joli programme. Alors équipe pas au complet ce soir, il y a Esteban en studio avec moi et Pablo en régie. Mais donc joli programme comme on vous le disait, avec notamment une interview du journaliste sportif Fabien Lévesque qui partagera son expérience, son parcours en tant que journaliste sportif, l'occasion également de revenir sur les Jeux Olympiques et Paralympiques à venir, mais aussi sur le tennis français notamment, et j'en passe. Vous êtes sur le 93.9 FM, on est ensemble pour les 30 prochaines minutes. Merci d'écouter C'est le S. Mais pour commencer, comme il se doit, c'est le S, un petit tour du monde de l'actualité sportive. Bonsoir Esteban.
Bonsoir, bonsoir.
Et on va commencer par du football avec la D1 Arkema et un certain Kylian Mbappé. Et
oui, un petit nom, pas très connu. Non, plus sérieusement, donc évidemment, dimanche dernier, c'était la dernière au Parc des Princes de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain. Une défaite 3-1. Bon, donc une dernière au goût amer, mais quand même un but pour l'attaquant parisien qui termine la saison de Ligue 1 plus que jamais meilleur buteur de l'histoire du club avec plus de 250 réalisations. On va également parler donc de D1 Arkema avec la nouvelle formule mise en place cette année. Avec des play-offs donc entre les quatre premières équipes du championnat de France. Donc le week-end dernier on avait les demi-finales donc de play-offs. On a le Paris Saint-Germain, donc les féminines qui ont battu le PFC, le Paris Football Club, au pénalty après un match nul 2-2. Et on a l'Olympique Lyonnais qui a écrasé le Stade de Reims 6-0. Et donc vendredi soir, on aura une finale à partir de 21h au Parc OL entre la section féminine du Paris Saint-Germain et celle de l'Olympique Lyonnais.
Merci beaucoup Esteban, et également le tournoi Destination Féminin 2024 qui s'est déroulé du 23 mars au 27 avril dernier. Le 15 de France a terminé à la deuxième place après sa défaite face à l'Angleterre 21-42 lors de la dernière journée qui a une fois de plus, l'Angleterre qui a une fois de plus remporté la compétition. Une défaite avec un air de déjà vu donc, puisque c'est la troisième année de suite que les Bleus perdent. La finale annoncée du tournoi face à leurs meilleurs ennemis et termine à la deuxième place. L'Angleterre et la France sont suivis dans le classement par l'Irlande et l'Écosse, puis l'Italie et le Pays de Galles. En parlant d'Italie, également le Giro d'Italia, course cycliste masculine sur route, qui est l'un des trois grands tours de la saison. La course a lieu cette année du 4 au 26 mai 2024. Les cyclistes sont donc à l'heure où je vous parle en pleine compétition. 21 étapes avec une distance totale de 3386,7 km, dénivelé positif de 42 900 mètres. Les territoires de la pote italienne situés au sud de Naples ainsi que de la Sicile et de la Sardaigne ne sont pas au programme de l'édition 2024. La première semaine voit les coureurs traverser l'Italie de Turin jusqu'à Naples, la deuxième semaine de Pompéi aux Alpes par l'Adriatique et la troisième semaine les Alpes puis une arrivée à Rome. Le leader du classement général jusqu'à présent, c'est le Slovène Tadej Pogacar, grand favori de la compétition. Et également à noter les dates du Giro féminin qui va être à suivre, la 35e édition du Tour d'Italie féminin qui aura lieu du 7 au 14 juillet 2024. Et pour finir ce petit tour d'actualité, on aura d'autres actualités également plus tard dans l'émission. Un petit peu de playoff NBA, qui et dit oui. Avril, mais et ça oui, dit oui, playoff NBA aussi.
La saison bat son plein, c'est absolument extraordinaire ce qu'on est en train de vivre. On a des demi-finales de conférence extrêmement serrées, puisque je rappelle rapidement, c'est la première franchise à 4 victoires donc qui passe au tour suivant. Et là, on est à 2 partout entre les Nuggets et les Wolves, 2 partout également entre les New York Knicks et les Indiana Pacers, 2 partout entre les Dallas Mavericks et le Thunder d'Oklahoma City. Il n'y a que les Boston Celtics, grands favoris cette année en NBA, qui ont fait le break et mènent désormais 3-1 contre les Cavaliers de Cleveland. Et on va suivre ça avec grand intérêt. À noter que les finales NBA démarreront le 6 juin prochain.
Juste peut-être pour rester un petit peu sur les playoffs NBA, mais une petite équipe favorite, Esteban, parce que cette année, on a des playoffs, franchement, on est régalé.
C'est particulièrement serré. C'est sûr que Denver, je pense que c'est l'équipe la plus préparée parce qu'ils sont champions en titre.
Après, Minnesota, attention.
C'est clair, ils menaient. En plus, Minnesota est allé gagner les deux premiers matchs à Denver, on s'est dit. C'est dingue. Et Denver est allé gagner. Voilà, exactement, a pris les deux matchs à Minnesota. Donc, c'est extrêmement serré. Et d'un autre côté, ce serait quand même surprenant que Boston n'aille pas au bout alors qu'ils ont une équipe absolument dingue.
Et oui, merci Esteban. Et je voulais juste rajouter pour le Giro, parce qu'aujourd'hui, il y a eu la magnifique victoire de Valentin Perret-Peintre, vainqueur en solo de la 10e étape, le français Valentin Perret-Peintre. Donc, félicitations. Oui. Ça fait du bien des victoires françaises dans le cyclisme. On n'en a pas encore fini avec les actualités. On y reviendra plus tard dans l'émission au fil de l'interview. On parlera notamment du tournoi de Rome au tennis et des nouvelles olympiques également. Spoiler, la flamme est sur le sol français. Mais tout de suite, voici la première partie de l'interview avec Fabien Lévesque, interview enregistrée dans ce studio même le 18 avril dernier. Bonjour Fabien Lévesque.
Bonjour Lucas.
Alors Fabien Lévesque, vous êtes journaliste sportif pour France Télévisions, notamment spécialisé dans le football et le tennis. Vous interveniez comme spécialiste football dans l'émission Stade 2. Vous commentez également les matchs de football diffusés sur les ondes de France Télévisions, comme les finales de la Coupe de France et de la désormais révolue Coupe de la Ligue, mais aussi pour la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques. Vous commentez également le tennis, de la Coupe Davis à la Fed Cup, Roland-Garros et les Jeux Olympiques. Et depuis 2018, vous êtes le rédacteur en chef et présentateur de Tout le Sport sur France 3, magazine sportif du lundi au samedi à partir de 20h. Alors ma première question, c'est à quoi ressemble la journée type de Fabien Lévesque? Comment se prépare cette émission Tout le Sport qui, il me semble, a fêté en plus ses 30 ans en septembre, si je ne dis pas de bêtises?
C'est bien ça, effectivement. L'émission a fêté ses 30 ans à la rentrée, donc c'est quand même un monument de la télé française. Donc c'est une grosse responsabilité d'avoir la charge de cette émission, d'être à la tête de ce programme. Donc la journée type, c'est que tous les matins déjà on se réunit avec l'équipe, avec la rédaction pour déterminer ce qu'on va mettre dans l'émission le soir même. On fait la conf de rédaction le matin, où on dispatche les sujets, on voit ce qu'on va traiter en priorité, etc. Et puis après, toute la journée, on suit la fabrication des reportages, des montages. Donc il y a beaucoup de choses à gérer, à préparer, et sachant qu'on a une deadline, il faut être prêt à 20h pour l'heure de la diffusion. Donc c'est une émission qui est faite en direct, donc sans filet, donc faut être prêt à l'heure H pour le début de la retransmission. Donc on est guidé en fait par ça tout au long de la journée, par le fait que tout doit être timé à la seconde près quasiment.
Ok, et au-delà donc de cette émission Tout le Sport, vous commentez également notamment Roland-Garros. Cette année, c'est le 26 mai que ça commence, le premier tour. Comment vous vous préparez chaque année pour ce tournoi qui est un des rendez-vous également majeurs sportifs en France?
Il se prépare un peu tout au long de l'année en fait, en suivant déjà ce qui se passe sur les circuits ATP, WTA, les performances de chacun et de chacune. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas le 26 mai en se disant tiens, c'est Roland-Garros qui commence, on se plonge dans le tennis. C'est-à-dire que si ça se prépare toute l'année, en suivant l'actualité du tennis, tous les grands chelems, les grands Masters 1000, ce qui se passe, et les performances des gros joueurs et puis des Français. Donc c'est quelque chose qui se prépare déjà bien en amont en fait du tournoi de la quinzaine. C'est pas quelque chose où on arrive les mains dans les poches entre guillemets en disant c'est la quinzaine de Roland-Garros sur France Télé, faut y aller. C'est du travail en amont, du suivi surtout en fait, du suivi de l'actualité tennistique tout au long de l'année en suivant les performances de chacun.
Et alors à Roland-Garros, vous êtes commentateur, c'est un autre pan de votre profession de journaliste. Quel est selon vous le rôle d'un commentateur sportif?
Le rôle d'un commentateur sportif, c'est déjà d'emmener avec lui le téléspectateur, c'est-à-dire le prendre un petit peu par la main, le guider et retranscrire au mieux ce qui se passe en fait dans un stade ou dans une enceinte ou dans une salle. Et c'est faire passer des émotions également. C'est ça, et on a cette responsabilité-là de faire vibrer les gens qui sont chez eux à regarder un spectacle sportif, tout simplement. Donc on est là pour faire passer des émotions, pour faire vibrer les gens. Moi, je vois ce métier-là comme ça, en fait. C'est un métier qui procure beaucoup d'adrénaline, qui est passionnant, vraiment. Et l'idée, c'est de retranscrire cette énergie, cette passion, que les gens ressentent le plaisir qu'on a à commenter.
Et alors j'imagine qu'il n'y en a pas qu'un seul, mais quel est le secret ou les secrets pour justement faire ressentir ce que vous, vous vivez dans la cabine au plus proche du terrain?
Bah après, on se laisse surtout guider par ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire qu'on est toujours dépendant de ce que vont nous proposer les acteurs, les joueurs. C'est-à-dire que si un match est ennuyeux, ça sera difficile d'emmener les gens avec nous et de s'emballer, de les faire vibrer. En revanche, si on a un match super, un match de tennis qui va être en 5-7, qui va durer quasiment 4 heures, un match de foot avec des scénarios de malades, avec des renversements de situation, avec plein de buts, donc là c'est beaucoup plus facile évidemment de s'emballer, de vibrer, de s'enflammer tout simplement. Donc on est toujours un petit peu tributaire de ce qui se passe sur le terrain. Donc la vérité, c'est les acteurs qui la détiennent en fait. C'est eux qui vont nous permettre de faire un bon commentaire entre guillemets. C'est difficile quand la prestation est un peu terne, un peu ennuyeuse, de faire un bon commentaire entre guillemets. C'est là où c'est le plus difficile en fait. C'est là où il faut meubler, c'est là où il faut trouver des artifices entre guillemets pour faire vivre une rencontre. Donc on est toujours tributaire des acteurs.
Est-ce que vous vivez malgré tout la rencontre, que ce soit tennis, football, comme si vous étiez spectateur, ou vous essayez de garder quand même une distance pour rester concentré sur ce que les auditeurs, auditrices attendent en termes de commentaires?
Non, faut être concentré sur ce qui se passe pour que rien nous échappe tout simplement. On est obligé de toute façon, quand on est commentateur, je le dis souvent, on peut pas avoir en même temps un costume de supporter, de fan ou d'aficionado, quoi. C'est incompatible. Donc faut rester le plus neutre possible. Les seules fois vraiment où on peut se permettre entre guillemets d'être chauvin, c'est quand on commente les équipes de France. Oui. C'est le seul cas de figure en fait où on peut se permettre de forcer le trait un petit peu, mais pour les autres c'est très compliqué. Quand on commente des matchs de club, on est très vite taxé d'être pro PSG, pro Marseille, pro Lyon, pro Monaco, pro Nantes, tout ce que vous voulez. Donc quand on commente des matchs de foot de club, c'est impératif d'enlever ce costume d'aficionado entre guillemets, quoi. C'est pour prendre de la hauteur justement par rapport à un match, être le plus objectif possible par rapport à ce qui se passe.
Pour revenir un petit peu sur le tennis, on entend souvent chez le grand public ce discours que les tennismen français et françaises à Roland-Garros ne gagneront plus jamais, qu'ils ne se donnent pas au maximum d'eux-mêmes, ce qui est très dur à vivre pour les tennismen, comme l'a expliqué Gilles Simon dans son livre « Ce sport qui rend fou ». Vous qui êtes au plus proche de l'événement, qu'est-ce que vous pensez de la performance française aujourd'hui dans le tennis et en général également dans le sport ?
Bah dans le tennis, c'est compliqué. C'est vrai qu'on a du mal à trouver une relève à cette génération qui est maintenant sur la fin, avec Gaël Monfils, Richard Gasquet qui vit certainement sa dernière année sur le circuit, Joe Wilfried Tsonga arrêté, Gilles Simon également. C'était quand même des monuments du tennis français qui étaient capables de se hisser dans les derniers carrés de Grand Chelem. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'on va revivre ça, honnêtement. Ça me paraît compliqué dans l'immédiat d'avoir un joueur qui sort du chapeau et qui va briller dans les tournois majeurs. Donc c'est compliqué. Pour moi, le joueur qui a le plus de potentiel aujourd'hui, c'est Arthur Fils, qui a le potentiel pour se hisser dans le top 10. Hugo Humbert n'est pas très loin. C'est une génération un petit peu intermédiaire, Hugo Humbert, mais Hugo Humbert n'est pas très loin. Il est 13e actuellement. Il n'est pas très loin du top 10, mais de là à se hisser forcément dans un dernier carré de Grand Chelem, ou potentiellement aller gagner un majeur, c'est autre chose. Ça demande autre chose. Donc ouais, on est sur une période creuse malheureusement du tennis français, aussi bien chez les garçons que chez les filles, parce que chez les filles c'est aussi la catastrophe. Là le paysage est assez désertique. On voit bien que Caroline Garcia n'arrive pas à maintenir un niveau de jeu élevé, à trouver de la constance au très haut niveau. Tombe très vite dans ses travers. Donc là pareil, il n'y a pas trop de relève derrière, donc les années sont pas faciles là pour le tennis français actuellement.
Mais est-ce qu'il y a une part de vérité alors dans ce discours que voilà, les tennismen français ne se donnent pas au maximum d'eux-mêmes, qui pourraient faire plus?
Après, comment expliquer que certains performent chez les jeunes et n'arrivent pas à confirmer au plus haut niveau? C'est la grande question. C'est peut-être qu'il leur manque un petit quelque chose, un petit gap mental, moi je pense. Je pense pas qu'il travaille mal. Je pense pas qu'il travaille mal, mais l'exemple, regardez, c'est Richard Gasquet qui, quand il était chez le junior, il battait Rafael Nadal. Une fois qu'il a mis le pied chez les pros, il l'a pas battu une seule fois. C'est que Nadal avait un petit supplément d'âme, quelque chose de plus qui fait que quand il arrivait sur le court, il avait envie de manger l'autre et il devenait il avait un mental de gagnant certainement qui était beaucoup plus important et développé. Donc peut-être qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là, je pense, pour qu'on ait des garçons qui soient un peu plus morts de faim peut-être, un peu plus compétiteurs, un peu moins joueurs et plus compétiteurs. Pour peut-être passer ce cap-là.
20h16 et 15 secondes. Esteban, ça tombe bien, on parlait de tennis avec Fabien Lévesque, de la performance française dans ce sport, et il y en a un qui a fait sensation à Rome en sortant le numéro 6 mondial, Andrei Rublev.
Et vainqueur récemment, la semaine dernière, du tournoi de Madrid. C'est absolument dingue ce qu'a fait Alexandre Muller, français de 27 ans, assez méconnu du grand public, 100e à l'ATP, et qui donc s'est offert le russe. Aujourd'hui, malheureusement, il s'est arrêté au stade des 8e de finale face au Chilien Nicolas Jarry, qui va rejoindre en quart de finale Stefanos Tsitsipas, là tombeur à l'instant de Alex de Minaur. On a eu plein de surprises dans ce tournoi, parce qu'on a eu notamment un autre Chilien, Tabilo, qui s'est offert le scalp de Novak Djokovic. Alors un Novak Djokovic presque fantôme, hein, sur le court dimanche dernier, mais qui a tout de même explosé le numéro 1 mondial. Et aujourd'hui, il a confirmé face à Karen Khachanov. On a également Alexander Zverev, qui est encore le gros poisson de cette partie de tableau, Haute, qui a battu Borges aujourd'hui et qui retrouvera l'américain Taylor Fritz en quart de finale. Donc voilà, on a également Medvedev tenant du titre qui vient de perdre contre Tommy Paul. Donc c'est vraiment une hécatombe à Rome à moins de deux semaines de Roland-Garros. Donc ça promet d'être extrêmement ouvert. Et chez les dames, pour le coup, il y en a une qui laisse aucun suspense, c'est Iga Świątek, qui a battu Sabalenka la semaine dernière à Madrid après une finale d'anthologie, et là qui s'offre une nouvelle demi-finale. Donc voilà, pour l'instant c'est la seule qualifiée pour les demi-finales. Les autres quarts de finale se joueront ce soir et demain. Donc voilà.
Merci beaucoup Esteban. On va retourner avec Fabien Lévesque, notamment pour évoquer les Jeux Olympiques et Paralympiques, J-72 pour les Jeux Olympiques et bientôt, très bientôt, J-100 pour les Jeux Paralympiques. Si on revient sur le sujet des Jeux Olympiques, on est à l'heure où on se parle à J-99. Le 16 avril dernier a été allumée la flamme olympique. Vous avez notamment animé le tirage au sort des tournois olympiques de football le 20 mars dernier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui est mis en œuvre à France Télévisions pour cet événement hors du commun, et vous, comment vous préparez cet événement?
C'est vrai que le décompte, il est lancé maintenant, hein. On est à moins de 100 jours des Jeux Olympiques, on a l'impression qu'on est vraiment dans la dernière ligne droite. Il y a eu l'allumage de la flamme aussi qui a été un symbole très fort, et là ces derniers jours ça s'accélère, on sent bien que l'engouement est en train de monter, que... Voilà, qu'on va vivre un événement exceptionnel. Et c'est vrai que pour nous, à France Télévisions, ça va être assez fantastique de vivre ça de l'intérieur, d'être diffuseur des Jeux Olympiques, qui est pour moi l'événement incontournable de l'année. Certains disent même que c'est l'événement du siècle à Paris ici, parce que les Jeux, on les organise une fois tous les 100 ans et que notre vivant, on ne revivra plus jamais ça. Donc ça va être un événement exceptionnel, un privilège, une chance énorme. Et donc on va être dispo, on va être évidemment mobilisé un maximum pour ces Jeux Olympiques et Paralympiques, avec une antenne qui va être quasiment H24 sur les Jeux Olympiques, avec les deux chaînes qui vont être 7 jours sur 7 H24 mobilisées sur les Jeux. Donc ça va être, c'est hyper excitant, parce que forcément la France entière aura les yeux focalisés sur les Jeux Olympiques cet été, donc on sait qu'il y aura des millions de gens qui vont nous regarder, donc ça va être assez génial. Ouais.
Et alors qu'est-ce que vous attendez de ces Jeux Olympiques, que ce soit en tant que journaliste, médiatiquement, et peut-être a posteriori un gain d'intérêt pour le sport en France, et personnellement peut-être en tant que résultat des équipes françaises?
Alors après, je ne sais pas si ça permettra à la France de devenir un plus grand pays de sport comme on l'entend souvent. On n'a pas une culture sport très très développée en France. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura de l'intérêt pour ces JO. Après, est-ce que ça va développer l'appétence pour le sport des Français ? J'en suis pas certain. Parce qu'on part d'assez loin par rapport à d'autres pays voisins. Mais j'espère que ça va faire naître des vocations, peut-être dans des disciplines qu'on voit un petit peu moins. On sait bien que les JO, c'est une fenêtre de tir importante pour les disciplines qu'on voit moins, qui sont moins médiatisées. Et ça va être un énorme coup de projecteur pour certains sports. Et peut-être que ça va amener certains jeunes à vouloir se tourner vers ces disciplines-là qu'on voit parfois qu'une fois tous les 4 ans à la télé. Pour moi, c'est surtout ça qui est intéressant, c'est de parler des autres champions. On les connaît, nos grands champions français, mais pendant les JO, ça fait émerger d'autres visages. Et c'est ça qui me plaît dans l'histoire des Jeux, c'est qu'on découvre tous les 4 ans des athlètes qui sortent de nulle part parfois, qui vont chercher une médaille d'or, qui vont sur le podium, qui se défoncent pour aller chercher un résultat. Il y a toujours des très très belles histoires à raconter.
Et alors, pour développer cette appétence au sport en France, qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus, par exemple, parce qu'on parle de l'événement du siècle qui se déroule en France. Si cet événement n'amène pas un gain d'intérêt suffisant, qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus en France pour développer cette appétence?
C'est que le travail, il doit être fait beaucoup plus en profondeur, en fait. C'est plus d'heures d'école, c'est plus d'heures de sport à l'école. Ça passe, pour moi, c'est la base, en fait, entre guillemets. C'est offrir la possibilité aux élèves, aussi bien dès le primaire, au collège, au lycée, de faire beaucoup plus de sport. Et surtout aujourd'hui, où il y a de plus en plus de sédentarité, où les jeunes passent de plus de temps devant les écrans, devant les jeux vidéo, devant des ordinateurs, des télés, des tablettes. Pour moi, c'est indispensable qu'on développe l'activité physique dans les écoles, justement pour compenser ce nombre d'heures trop important devant les écrans. Et ça devient même un problème de santé publique, hein. Si les jeunes font moins d'activité, il y aura plus d'obésité. Enfin bon, c'est tout un tout ça est lié, évidemment. Pour moi, l'activité physique dans les écoles est absolument primordiale.
20h22 et 40 secondes et on a des nouvelles olympiques à vous transmettre. Après 12 jours de navigation en Méditerranée à bord du Belém, le second plus grand voilier de France, la flamme olympique est entrée dans le vieux port de Marseille le 8 mai 2024. Environ 230 000 personnes ont assisté à l'événement, ponctué par le passage de la patrouille de France et l'apparition surprise du rappeur Jules en porteur de flambeau. Ça laisse présager une grande ferveur populaire pour les Jeux qui arrivent très prochainement à Paris. Après cela, la flamme continue son parcours à travers la métropole qui se terminera le 26 juillet au soir de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 le long de la Seine. Et à moins de 75 jours avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, les tracasseries administratives débutent. La plateforme pour obtenir son QR code nécessaire pour franchir le périmètre de sécurité pendant les JO s'est ouverte ce lundi 13 mai. Cela signifie que vous pouvez désormais vous inscrire afin d'obtenir votre laissez-passer pour pouvoir vous déplacer le long de la Seine et autour de l'Arc de Triomphe du 18 au 26 juillet prochain. L'île de la Cité, l'île Saint-Louis, le pont d'Austerlitz et le Trocadéro sont également concernés. Et si vous habitez en Île-de-France, vous avez sûrement dû recevoir un message hyper flippant hier. Alerte extrêmement grave. Voilà, c'était le QR code. Dernière partie de l'interview avec Fabien Lévesque. L'occasion de revenir avec lui sur la profession de journaliste sportif. Alors pour terminer cette interview, j'aimerais revenir un petit peu sur justement les personnes qui contribuent à l'appétence du sport en France, les journalistes sportifs. Du 25 au 30 mars dernier ont eu lieu les Assises internationales du journalisme qui avaient notamment pour grand thème l'inclusion dans le sport et le journalisme sportif. Selon vous, quel rôle ont les médias à jouer dans cette inclusion ?
Déjà, en offrant plus de visibilité à ces athlètes, par exemple. Les athlètes en e-sport, c'est vrai qu'on les voit moins. C'est une réalité. Et c'est pour ça que les Jeux paralympiques vont être hyper importants aussi, parce que le dispositif de France Télé va être aussi assez colossal pour les Jeux paralympiques, avec beaucoup, beaucoup d'heures de diffusion. Donc, je pense qu'aussi, là, ça va permettre aussi aux gens de se familiariser, de s'attacher aux athlètes en e-sport. Et donc, ça, c'est hyper important, c'est de créer un lien. Créer un lien et de voir finalement aujourd'hui les sportifs handi comme de véritables athlètes comme les autres. Ça, c'est hyper important de les voir performer. Ça va être quelque chose qui va peut-être les faire passer dans une autre dimension. Donc, je pense que les Jeux paralympiques vont avoir un rôle très très important dans cette inclusion justement dans les années à venir.
Et si je pense par exemple au sport féminin, il y a l'exemple du magazine L'Équipe en août 2021 qui avait préféré Messi en une pour son arrivée à Paris plutôt que la victoire du hand féminin aux Jeux Olympiques de Tokyo. Est-ce que pour faire avancer cette inclusivité justement, il ne faudrait pas accepter une perte d'audience, que ce soit à court ou long terme, et faire rentrer cette inclusivité dans sa ligne éditoriale ?
Oui, aussi, également, mais également. Après, faut toujours avoir en tête la réalité aussi de, voilà, c'est-à-dire que c'est vrai que l'audience compte, évidemment, l'audience compte, et il faut être après lucide sur l'intérêt que peut porter les gens à toutes ces disciplines. On ne peut pas tout mettre à l'antenne, ce n'est pas possible, c'est irréalisable, et c'est pas quelque chose qui va forcément dans la logique des choses. Moi, je pense qu'il faut y aller progressivement, step by step. Le sport féminin prend de plus en plus de place sur les écrans, c'est top, je trouve ça fantastique, c'est bien. Après, il faut aussi que, entre guillemets, le spectacle proposé soit en mesure avec les attentes du public. Le public a des attentes, c'est-à-dire que c'est pas seulement on décide de mettre à l'antenne du sport paralympique ou du sport féminin, faut que ça corresponde aussi à ce que attend le public également. Il y a une réalité qui existe aussi par rapport à ça. Faut les choses avancent, c'est ça qui est essentiel pour moi, c'est que les choses avancent, que les choses progressent, que le sport féminin soit de plus en plus visible, que le sport handi soit de plus en plus visible. Et ça avance. L'essentiel, c'est ça, c'est que ça avance. Voilà. Ça va peut-être pas aussi vite que les gens le souhaiteraient, mais ça avance et c'est l'essentiel.
Et dernière petite question rapidement. Vous êtes passé par le J Montpellier avant de faire, il me semble, une alternance à France Télévisions, groupe que vous n'avez donc plus jamais quitté. À Radio Campus, il y a beaucoup d'étudiantes, d'étudiants qui nous écoutent. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à des jeunes qui souhaiteraient se lancer dans le journalisme sportif, même dans le sport peut-être ?
Bah, le conseil que je peux donner, c'est d'être passionné, d'être extrêmement déterminé, parce que c'est un métier effectivement qui est ultra, ultra concurrentiel, où les places sont chères. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Les places sont très chères dans le milieu, donc ça marche pas forcément du premier coup. Parfois, les portes se referment, mais faut être capable d'insister, de se battre pour aller décrocher quelque chose. Et après, c'est beaucoup de travail, en fait. C'est-à-dire que c'est un métier où il faut se montrer très disponible, il faut avoir envie, et la niaque, il faut avoir faim, quoi. Faut avoir envie d'aller décrocher des infos, des interviews, des exclusivités. Faut jouer des coudes, faut se battre pour obtenir ce qu'on a envie de faire. Donc voilà, j'ai envie de dire que tout simplement, faut croire en ses rêves, mais il faut se donner le moyen d'y arriver. Voilà, il faut se donner les moyens d'y arriver, c'est l'essentiel, parce que ça ne tombe pas du ciel. Donc avec beaucoup de travail, on peut arriver à tout, mais il faut se donner les moyens de le faire.
Eh ben, merci beaucoup pour votre temps, Fabien Lévesque.
Avec plaisir.
Un grand merci à Fabien Lévesque pour cette interview enregistrée le 18 avril dernier dans les studios de Radio Campus Paris. Avant de terminer cette émission, on va faire un petit tour des actualités à suivre. On va notamment parler de Roland Garros, on en a parlé pendant l'interview. Roland Garros qui commence dans 6 jours, le 20 mai, les qualifications.
L'opening week.
Exactement, le tour principal qui va commencer le dimanche 26 mai, donc Roland Garros du 20 mai au 9 juin. Et le 20 mai, c'est également J-100 avant les Jeux Paralympiques, ça arrive. On a également, donc on l'a dit plus tôt dans l'émission, le Giro féminin qui aura lieu du 7 au 14 juillet 2024. Et du foot également, beaucoup de foot. La Ligue des Champions féminine le 25 mai à 18h, Barcelone contre l'Olympique Lyonnais. Barcelone qui va défendre son titre, mais l'Olympique Lyonnais qui reste les plus titrés en Ligue des Champions féminine, 8 titres. Et également la Ligue des Champions masculine, Dortmund-Real le 1er juin à 21h à Wembley. Et la Coupe de France masculine le samedi 25 mai à 21h, PSG-OL. OL au stade Pierre Mauroy de Lille. Et également, le 25 mai, c'est une journée très chargée, hein, parce qu'il y a également la finale de la Champions Cup. Donc, vous pouvez commencer par la Champions Cup le samedi 25 mai à 15h45, le stade toulousain. Leinster, oui, contre le stade toulousain. Toulouse, qui est l'équipe la plus titrée en Champions Cup avec 5 consécration. Donc vous commencez par la Champions Cup à 15h45, vous enchaînez sur la Ligue des Champions féminine à 18h, Barça-OL, et vous finissez par la Coupe de France à 21h, PSG-OL, ça fait plaisir. Et la veille, on a également la finale de la Challenge Cup à Londres, vendredi 24 mai, à 21h, au stade de Tottenham, Gloucester contre les Sharks, Gloucester, ville anglaise contre les Sharks d'Afrique du Sud, qui ont battu malheureusement Clermont 32-31 le samedi 4 mai. Voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés ce soir. C'est le S, ça revient très vite sur Radio Campus Paris, on le rappelle, un mardi par mois de 20h à 21h. Prochain rendez-vous mardi 11 juin à 20h ici même à Radio Campus Paris sur le 93.9 FM. Toutes les émissions sont disponibles sur les plateformes de streaming et sur le site de Radio Campus Paris. À 21h, c'est le Rad Radio sur Radio Campus Paris. En attendant, c'est un petit peu de musique. Très belle soirée à vous. Ciao.